Bonjour et merci d'être fidèle à Questions Politiques, le rendez-vous de France Inter, du journal Le Monde et de France Info, émission spéciale ce 26 mai. Vous connaissez la règle qui s'applique chaque jour de scrutin, le CSA y veille. La diffusion de propos à caractère électoral est interdite à la radio et à la télévision. L'occasion de prendre le large avec un invité exceptionnel. Il est philosophe et marin. Son œuvre est considérable. On dirait de lui au Japon où il a enseigné qu'il est un trésor national vivant. C'est aussi un pionnier qui a anticipé les grandes mutations de notre temps, l'urgence écologique, l'avènement de l'ère technologique. Ses travaux sont incontournables pour penser la culture numérique, le virtuel ou les réseaux sociaux. Il publiait récemment aux éditions du Pommier ses morales espiègles et le mot lui va bien, à lui qui est sans doute le plus espiègle de nos immortels. Michel Serres de l'Académie française est dans Questions Politiques.
France Inter, Questions Politiques, Ali Badou.
Bonjour Michel Serres.
Bonjour.
Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité d'abord, oui.
À mes côtés pour vous interroger, Jeff Wittemberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour. Bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter.
Salut à tous.
Bonjour Karine.
Bonjour.
Michel Serres, je rappelais les règles qui s'appliquent les jours d'élection, mais vous, vous allez donner des sueurs froides au CSA parce que vous avez chahuté toute votre vie.
Oui.
Vous aimez désobéir.
J'ai publié ce livre, La morale espiègle, pour une bonne raison. C'est que quand on met les pieds dans la morale, on paraît des donneurs de leçons. C'est emmerdant comme la pluie, bien entendu, et c'est inefficace. Tandis qu'il y a une voie pour enseigner la morale, c'est le rire. Et vous savez, c'est une vieille tradition, je ne sais pas moi, Molière disait « corriger les mœurs en riant » et même la comédie dell'arte, vous voyez, c'est vieux comme affaire. Alors, par exemple, on vous dit « ne soyez pas menteur ». Bon, ça va, quoi.
Ouais.
Tandis que si vous regardez une comédie qui s'appelle Le Menteur, vous allez rire la première à la dernière réplique, par exemple, il ment. Et puis on lui pose une question, il faut qu'il mente encore plus. Encore une question, il faut qu'il mente. Et la gradation est telle qu'à un certain moment, tout est cul par-dessus tête, vous voyez.
C'est
vrai. Par conséquent, vous écoutez ça et vous vous dites, ah mon Dieu, si je mens, je vais m'embarquer dans une galère terrible. Oui. Et là, c'est efficace.
On dirait que vous parlez de politique, Michel Serres.
Oui, oui.
Je plaisante. Mais c'est vrai que vous aimez défier les hiérarchies. Dans ce livre Morales espiègles, justement, vous dites que vous avez aimé désobéir, que vous aimez chahuter. C'est assez étonnant pour un homme qui a été officier de marine, qui est passé par la navale.
Oui. Mais bien entendu qu'il faut obéir. Si vous prenez, par exemple, l'autoroute dans le mauvais sens, il vaut mieux éviter, vous voyez.
Oui.
Et il vaut mieux... Et à la mer... On n'obéit pas tellement au rade, on obéit à la mer. Et il y a des lois de la mer qu'il faut respecter absolument, sinon on fait naufrage. On n'a pas droit à l'erreur. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, la désobéissance est importante, parce que toute invention est une désobéissance. Mais toute désobéissance n'est pas une invention, évidemment.
Donc nous n'avons pas le droit, par exemple, aujourd'hui, de parler des élections européennes,
oui,
de politique partisane, mais on peut être espiègle.
Ah oui, bien sûr, on peut...
On peut parler de l'enlèvement d'Europe par Zeus, par exemple,
oh là,
de la mythologie.
Oui.
Ou du tableau de Titien.
Je trouve que Zeus a beaucoup exagéré. Il a beaucoup enlevé de femmes, vous savez.
C'est vrai.
Et Junon n'était pas content du tout. Hein, pas du tout.
Jeff.
Alors, vous saluez dans Morales espiègles l'intérêt du rire, toutes ses vertus,
oui,
mais vous distinguez le rire doux, celui qui moque sans volonté de faire du mal, la farce,
oui,
le canular, et le rire dur, celui,
oui,
qui peut tuer, écrivez-vous.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette distinction et nous dire aussi,
écoutez,
lequel a le plus le vent en poupe aujourd'hui?
Nous sommes dans le vif du sujet. Vous savez ce que c'est que les réseaux sociaux? Eh bien, et il arrive quelquefois qu'il y ait une telle calomnie qu'il prend de l'importance et ça peut amener la personne à des décisions extrêmes, même se suicider, vous voyez. Et par conséquent, c'est la calomnie. Le rire dur, c'est l'ultra-critique. Et puis la critique personnelle, ad hominem, vous voyez, sur la personne. Tandis que quand j'ai parlé tout à l'heure du menteur, le menteur, c'est un fantoche, c'est un joueur de théâtre, c'est un acteur, mais il peut être remplacé par d'autres, c'est pas lui qu'on attaque, c'est la personne qu'il représente.
Il y en a encore ?
Voilà.
Des rieurs, des Cyrano de Bergerac, comme vous le citez.
Écoutez, je ne veux pas juger sur le contemporain, si vous voulez. Mais enfin, il vaut mieux en effet utiliser le rire doux que le rire dur.
Il y a au moins vous, Françoise.
On n'a pas le droit de parler de politique avec un petit P, mais on peut parler de la grande politique et surtout vous interroger sur cette montée de la violence qu'on constate ces derniers mois. Est-ce qu'elle vous inquiète ? Est-ce qu'il y a une antidote à cette violence ?
Ça, c'est intéressant de dire ça, parce que, en effet, localement, il y a de la violence, si vous voulez, des attentats, des choses comme ça. Mais si vous regardez globalement, ce qui se passe depuis 10, 20, 100 ans, et on a des chiffres là-dessus, on a même des rapports des institutions internationales, la violence ne cesse de baisser. La violence ne cesse de baisser. Que ce soit la violence politique, si vous voulez, de type international, la guerre par exemple, ou de type attentat, ou de type même personnel, les violences individuelles dans les familles, etc. Et ça ne cesse de baisser. Et bien entendu, on est toujours attentif à ce phénomène factuel qui est aujourd'hui, l'actu, hein, n'est-ce pas ? L'info, l'actu. Mais globalement, c'est pas vrai. Voilà. Il faut le savoir, vous voyez, parce que là, c'est presque contre-intuitif, tout le monde, personne ne le croit. Et pourtant, consultez les documents, vous allez voir qu'il y a une baisse de la violence.
Ça heurte le sens commun. Malgré tout, vous avez essayé de comprendre d'où provient la violence.
Ah,
vous,
oui.
Avec votre ami René Girard,
oui.
Vous avez essayé de déterminer pourquoi est-ce qu'elle est consubstantielle à nos vies.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas tellement à nos vies, mais nous ressentons toujours un peu d'agressivité. Eh bien, la seule règle morale que je connais, c'est très simple. C'est transformer son agressivité en action, en travail, en création. Transformer son agressivité en créativité. C'est la seule règle morale, vous voyez ?
Karine.
Alors vous êtes présenté comme quelqu'un d'espiègle, qui aime chahuter, mais qui sait respecter les règles, qui est obéissant. Pourtant, on a le sentiment aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, qu'on a de plus en plus de mal à accepter la règle et à la respecter. Est-ce que c'est juste un sentiment ? Et par contre, si c'est vrai, pourquoi ?
C'est une bonne question. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une période exceptionnelle de l'histoire. Par exemple, on a vécu 70 ans de paix, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. L'espérance de vie a cru jusqu'à 80 ans, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. La population paysanne est passée de 75% à 2%, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Bon, et par conséquent, on a une société qui a évolué de telle façon qu'il faut être extrêmement lucide pour s'en apercevoir. Et par conséquent, toutes les institutions que nous avons créées ont été créées à une époque où le monde n'était pas ce qu'il est devenu.
Elles sont obsolètes aujourd'hui pour vous ?
Ces
institutions sont obsolètes ?
C'est à peu près toutes, je crois, à peu près toutes. Elles sont obsolètes, c'est-à-dire elles sont désadaptées par rapport à l'état actuel du monde. Et l'état actuel du monde, il faut beaucoup de lucidité pour le reconnaître tel quel.
Et donc, il faudrait accepter de s'y remettre, réinventer nos institutions
et ce qui manque, c'est ça. On n'a pas réinventé, par exemple, quand on a fait la révolution de 89, on avait Rousseau derrière. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a personne derrière. Et c'est la faute à qui ? Au philosophe, dont je suis.
La faute au philosophe.
Pourquoi, justement ?
La faute au philosophe. Oui, bien sûr. Parce que c'est le rôle des philosophes de prévoir ou d'inventer une nouvelle forme de gouvernement, une nouvelle forme d'institution. Ils ne l'ont pas fait. Regardez, par exemple, au XIXe siècle, il y a des tas d'inventions. C'est les socialistes utopistes, vous vous rappelez, les Fernandster. Il y a des tas d'inventions pour vivre ensemble autrement. Voyez.
Ouais. Mais ils se sont endormis sur leur laurier, ils se sont sentis dépassés. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour ces philosophes qu'on lâché l'affaire, finalement ?
Oui, mais écoutez, n'oubliez pas qu'ils ont inventé les crèches pour enfants, qu'ils ont inventé les banques pour les pauvres, qu'ils ont inventé tout ce qui nous fait la vie douce aujourd'hui. Mmh. Et par conséquent, on les appelle utopistes, et en réalité, si on regardait de près, on s'aperçoit que leur trace est définitive parmi nous.
Mais pourquoi ça s'est asséché aujourd'hui ?
Il doit y avoir des raisons, c'est-à-dire je crois quand même que les philosophes ont manqué ce but-là, parce qu'en amont, ils n'étaient pas formés aux sciences. Il n'était pas formé aux technologies. Et d'autre part, il s'engageait.
Oui.
Et s'engager, ça veut dire répéter les consignes d'un parti. voyez. Et donc, au lieu d'inventer, ils ont obéi, voyez. Et c'est là qu'on voit le rôle espiègle de la désobéissance.
Qu'est-ce qui vous a prémuni, vous, Michel Serres? Qu'est-ce qui vous a immunisé? Vous êtes l'un des rares, très rares, grands intellectuels français à n'avoir pas cédé à l'idéologie, à n'avoir pas cédé aux utopies dans ce qu'elles pouvaient avoir de plus totalisant. Vous n'avez pas cédé à l'engagement partisan non plus. C'est une exception.
C'est-à-dire que c'était assez facile. Vous savez pourquoi? Parce qu'à peu près toutes les idéologies en question disaient tellement de sottises énormes sur la science qu'il suffisait de savoir un peu de science pour dire « Oh, pop, je rentre pas dans cette affaire-là ». Rappelez Michourine, Lysenko, vous rappelez tout ça. C'est-à-dire des savants de romance, vous voyez.
Oui.
Et dès qu'on savait un peu de science, on était immunisés contre cette affaire-là.
Et c'est largement votre cas. Je le disais, nous ne pouvons pas parler de l'actualité politique, mais nous pouvons parler de votre rapport à la politique. J'aimerais vraiment inviter à lire le discours de réception, votre discours de réception à l'Académie française. C'est disponible en ligne parce que ce texte est un vrai chef-d'œuvre et parce qu'il y fut question de politique. Votre fauteuil, celui que vous occupez à l'Institut, c'est le fauteuil numéro 18.
Oui.
Et c'est un siège terrible parce qu'il a été occupé avant vous par deux hommes politiques majeurs de notre histoire récente. Ils ont tous les deux été présidents du Conseil, Philippe Pétain et Edgar Faure.
Oui.
Et je me disais, en vous lisant, quand vous deviez parler de l'un et de l'autre, c'est la tradition, si pour vous, ils étaient les deux faces d'une même pièce, celle de la politique.
C'est-à-dire que, lorsque je suis rentré à l'Académie, mon problème, c'était de traiter de noms politiques, alors que moi-même, j'étais un peu loin de cette affaire-là. Bon, et bien sûr, il y avait Philippe Pétain. Mais il se trouve que Philippe Pétain a été exclu de l'Académie. Oui. Par conséquent, on peut dire qu'il n'y a pas été, si vous voulez, puisqu'il n'est pas immortel. Bon. Et donc, il fallait que je parle d'Edgar Faure. Alors, j'ai préféré avoir un peu de recul et en parler de manière culturelle, vous voyez? C'est-à-dire, quel était le rôle de cet homme-là dans la culture du temps? Voilà. Et alors, du coup, on en arrive à faire du Montesquieu plutôt que des partis. Oui, voilà.
Exactement, et ça vous amène aussi à distinguer le politique et la politique.
Oui.
Le politique qui parle doctrine, grandes idéologies, et le politique technicien.
Oui, c'est ça. Et non, la politique, si vous voulez.
La politique.
La politique, c'est l'engagement dans ce parti donné, à un moment donné, dans telle circonstance donnée. Vous voyez. Tandis que le politique, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure à propos des philosophes, c'est-à-dire la théorie des institutions.
Oui. Justement, vous disiez tout à l'heure, et vous vous rangiez dedans, que les philosophes ne proposent pas aujourd'hui de société alternative au capitalisme triomphant, comme a pu le faire le socialisme et le marxisme au XIXe siècle.
Oui.
Est-ce que vous croyez, avant qu'elle n'émerge, à un modèle de société qui pourrait s'imposer sans la contrainte, c'est-à-dire de façon naturelle, finalement, et acceptée par les citoyens? Est-ce que ce n'est pas ça la difficulté?
C'est une très bonne question.
Michel Serres.
Vous savez, j'ai enseigné 37 ans, je crois, dans la Silicon Valley. Puisque
à l'université de Stanford.
Stanford est l'université de la Silicon Valley. J'ai donc vu tout ce mouvement partir, démarrer, toutes les start-up démarrer, vous voyez. Et bien entendu, à l'époque, l'idéologie était, alors, disons-le, libertaire.
Oui.
C'est-à-dire, on se disait, comme tout le monde aura la parole, alors on a l'espoir d'une nouvelle démocratie. Et puis peu à peu, on a déchanté forcément. Sont arrivés les réseaux sociaux, sont arrivés les bobards, les mauvaises nouvelles, etc. Et ça a un peu fait chuter la confiance qu'on pouvait avoir dans cette idéologie. Mais deuxièmement, il faut dire que la tentation du pouvoir et de l'argent a été terrifiante. C'est-à-dire, lorsque vous vous apercevez que vous êtes les maîtres du monde, ben, il est difficile de rester libertaire. Voilà. Et ça, c'est arrivé, disons, il y a 10-15 ans, au GAFA.
Donc, il n'y a pas de modèle de société alternatif.
Non, pour le moment.
De fait.
Françoise.
Et pour prolonger, est-ce qu'il faut s'accommoder du capitalisme et est-ce qu'on peut estimer qu'à un moment, ce capitalisme va être dompté pour aller vers cette nouvelle société ou pas?
Je ne sais pas. La réponse à cette question ne peut être que locale. C'est-à-dire, au lieu de parler de capitalisme, parlons d'économie. Disons, l'économie telle que le capitalisme l'a mis en place. Or, cette économie, aujourd'hui, est catastrophique du point de vue, au moins du point de vue écologique. C'est-à-dire, cette économie est en train de détruire la planète. Et c'est pour ça que j'ai écrit le contrat naturel, vous voyez.
Et c'est exactement ce que nous voulions aborder avec vous.
Pardon.
C'est exactement le point où nous voulions en venir justement à la question écologique. Bon. Parce que vous êtes, Michel Serres, l'un des premiers à avoir anticipé cette urgence-là, l'urgence écologique que nous vivons aujourd'hui. Vous l'avez formulé en termes de droit. Dans ce livre, qui est devenu un classique, Le contrat naturel, vous proposiez de faire de la nature un sujet de droit pour qu'elle puisse se défendre quand elle est agressée. À l'époque, l'idée, elle paraissait surprenante. Aujourd'hui, beaucoup moins.
Écoutez, la bonne nouvelle, d'une certaine manière, il y en a quelquefois de bonnes nouvelles. Le lac Erie, vous savez, un des 5 grands lacs américains, vient d'être nommé sujet de droit. C'est-à-dire, il a le droit d'ester en justice pour attaquer des utilisateurs abusifs, vous voyez.
Qui viendraient le polluer, par exemple.
C'est ça, exactement. Par conséquent, d'une certaine manière, le contrat naturel est en train d'arriver dans les mœurs et dans les habitudes juridiques. Mais c'est pas nouveau. D'ailleurs, beaucoup de juristes étaient déjà un peu de ce côté-là depuis quelque temps.
Mais c'est un statut qu'on donne. En quoi ça protège véritablement, en fait? En quoi est-ce qu'il faut en passer forcément par le droit?
Eh bien, forcément par le droit. Par où voulez-vous passer?
C'est-à-dire, est-ce que c'est une vraie protection?
Oui, je crois que ça peut arriver à une vraie protection, parce que si le lac Erie en question fait un procès à tel utilisateur abusif, il est obligé de s'arrêter. Et de point de vue économique, c'est catastrophique pour lui. Vous voyez ? Voilà. Aujourd'hui, le vrai problème inquiétant, c'est la croissance de ce type d'économie, l'économie de consommation, si vous voulez.
Donc c'est une prise de conscience qu'on attend plus que finalement des règles de droit.
Oui, là aussi, il y a une bonne nouvelle. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'entre ma génération et celle, disons, de mes étudiants ou de mes petits-enfants, la conscience écologique est beaucoup, beaucoup meilleure qu'elle n'était de mon temps, largement.
Oui, Françoise.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a cette conscience écologique et on a l'impression qu'au fond, ça n'avance pas au rythme de cette conscience. Et donc, on a une sorte de pression des nouvelles générations qui disent
oui,
à leurs aînés,
exact.
Agissez, et les aînés ne savent pas agir parce que peut-être que l'économie n'est pas organisée comme il faut et que les institutions politiques ne sont pas adaptées. Comment vous résolvez ce problème-là?
Je ne sais pas le résoudre. Parce que celui qui le résoudrait serait le plus grand génie du 21e siècle, vous pensez bien. Parce que la question est tellement globale. Vous me posez une question qui est à la fois culturelle, économique, politique, etc. C'est tellement énorme qu'en effet, il n'y a plus qu'un philosophe pour la résoudre.
Il faut des petites poussettes.
Je voudrais bien être celui-là. Voilà.
Il faut des petites poussettes.
Voilà. Mais
il faut des jeunes filles comme Greta Thunberg, cette jeune Suédoise qui essaye d'alerter les consciences la protection de l'environnement.
Très bon exemple. C'est-à-dire, il y a des petites poussettes qui se multiplient. Mais alors, quelle est leur influence sur l'économie? Ça, c'est déjà problématique.
Ouais, mais quelle est la bonne méthode, Michel Serres, pour éveiller les consciences à l'urgence écologique? Est-ce que c'est la vôtre positive, proposer un contrat naturel, ou est-ce que c'est Le catastrophisme éclairé, ceux qui disent on est sur le Titanic et nous allons à la catastrophe.
Oui, écoutez, je suis d'accord de dire alerte, et même alerte rouge si vous voulez, mais si vous faites des livres catastrophiques seulement, et si vous faites des pessimismes seulement, nous n'allons plus agir, c'est-à-dire que l'optimisme sert au moins à se mettre au boulot. C'est-à-dire, ce que je cherche, moi, c'est d'aider les générations nouvelles à vivre dans un monde meilleur. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit Le contrat naturel, Petite poussette, c'était mieux avant, etc.
Il y a aussi des faits, Michel Serres, lorsque vous voyez que malgré l'accord de Paris, la prospection, la production de pétrole, par exemple, ne cesse d'augmenter, que selon une ONG, Global Witness, les grandes compagnies pétrolières à elles seules auraient dans leur tuyau près de 5 000 milliards de dollars d'investissement pour la prochaine décennie. Est-ce que vous dites, vous ramassez pas la mer avec une petite cuillère par rapport à une réalité?
C'est un très bon exemple de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, en effet, nous n'avons pas de moyens pour le moment d'agir sur ce qui fait le monde actuel. C'est-à-dire le travail, l'économie, etc., sont orientés de telle façon, en effet, qu'on est dans une situation dramatique.
D'où le discours catastrophiste que vous dénoncez, mais qui repose sur des réalités bien tangibles.
Je répète, autant vous dites alerte, mais c'est le moment de se mettre au boulot. Et c'est pas le moment de désespérer, de laisser tomber.
Mettons-nous au boulot, Michel Serres, vous qui êtes marin, Vous êtes aussi alpiniste. Quand vous voyez que l'Everest est devenu une poubelle, quand vous voyez qu'il n'y a plus d'endroit de notre planète qui ne soit pas pollué, on a trouvé récemment des déchets plastiques au fond de la fosse des Mariannes, à près de 11 000 mètres de profondeur. Comment expliquer cette pollution ? Vous avez essayé de travailler sur cette notion. Vous disiez que la pollution, c'était une forme d'appropriation brutale, violente.
J'ai même écrit un livre qui s'appelle le mal propre.
Le mal propre.
Le mal propre.
En deux mots.
Parce que, en général, on dit comment on pollue et on ne dit jamais pourquoi on pollue. Et en effet, je suis chez un invité, vous m'invitez à dîner et je crache dans la soupe. Mais plus personne ne va la manger. Elle est à moi. Dès le moment que je crache dessus, elle est à moi. Dès le moment où je salis un peu la salle de bain, elle est à moi, elle n'est plus à vous. Voyez.
Et quand je laisse mes déchets sur une aire de pique-nique, l'aire de pique-nique ne devient pas mon aire de pique-nique, cela dit.
Pardon le...
Si je laisse mes déchets sur une aire de pique-nique parce que je viens manger là, ce que font certains, hélas, on ne s'approprie pas l'aire de pique-nique, malgré tout.
On ne s'approprie pas, mais on interdit aux autres d'y aller. Ah. Et par conséquent, c'est un peu l'équivalent, vous voyez. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est tellement affreux que plus personne ne va faire le pique-nique.
Non, vite s'installer
là.
Voilà. Mm-hmm.
Françoise Fressoz.
Ce que vous expliquez, c'est que pendant des siècles, l'homme a essayé de maîtriser la nature.
Oui, exact.
Et aujourd'hui, on va lui demander de maîtriser
sa maîtrise.
Voilà. Et comment est-ce que, philosophiquement, vous faites émerger cet homme nouveau sans qu'il se sente bridé ou que tout d'un coup, il y ait une grosse crise dans la foi, dans la science ou dans l'avenir? Est-ce que c'est pas ça le cœur du sujet aussi?
C'est le cœur du sujet, c'est en effet ça. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, l'idéologie des Lumières avait décidé ou prévu que l'avenir serait de meilleur en meilleur. Mais il s'est pas aperçu de quelque chose de fondamental, c'est que chaque fois qu'on avait un bénéfice, il fallait en payer les dettes. Vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre les bénéfices que donne un progrès, et par exemple, je le disais tout à l'heure, il y a des bénéfices considérables des réseaux sociaux, un bénéfice considérable de Wikipédia, par exemple, vous voyez.
Oui.
Mais tout d'un coup, la dette est là et il faut la payer aussi, vous voyez. Donc c'est l'équilibre.
En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut remettre en cause la philosophie des Lumières qui a quand même imprégné la France de façon très forte.
Ça, je l'ai écrit depuis très longtemps, ça. C'est-à-dire, en effet, vous savez, je suis devenu philosophe pour une raison très simple. C'est-à-dire que, étant jeune, j'étais scientifique et tout d'un coup, il y a eu Hiroshima. Et Hiroshima, pour les scientifiques, a été un moment décisif. C'est-à-dire, la science qui était toute bonne et seule bonne, tout d'un coup faisait ça. Alors il fallait prendre conscience d'autre chose, vous voyez. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des comités d'éthique, etc., à peu près dans toutes les activités scientifiques, vous voyez, voilà.
On en parlait en début d'émission, vous saluez les vertus du chahut, vous racontez aussi des souvenirs de jeunesse lorsque vous étiez élève ou étudiant. Est-ce que dans le combat écologique aussi, il faut chahuter? Par exemple, que pensez-vous des actions coup de poing menées régulièrement par Greenpeace? On l'a vu récemment à la défense contre des sociétés françaises qui participent, disent-ils, à la République des pollueurs. Est-ce que vous approuvez ce genre de méthode?
Je ne sais pas.
Michel Serres.
Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire, ou c'est violent et je désapprouve un peu, ou c'est efficace de façon positive et j'approuverai, voyez.
Mais comment agir alors? Il faut juste convaincre, il ne faut pas parfois taper du poing sur la table ou être violent au bon sens du terme, si c'est possible.
Je ne sais pas, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que celui qui donnait les conseils était un vieil emmerdeur. Donc, j'ai pas de conseils à donner.
Grand-papa Ronchon.
Grand-papa Ronchon. D'ailleurs, quand vous regardez la pièce de Molière qu'on appelle le Misanthrope, vous la regardez, vous riez de lui et vous ne devenez plus grand-papa Ronchon, puisque c'est lui le grand-papa Ronchon.
Oui. Oui.
Voilà, exactement.
Mais c'est la meilleure manière de s'immuniser contre ce mal.
Mais sur l'environnement, sur la protection de l'environnement et donc sur l'écologie, la grande difficulté, c'est de réussir quand même à mobiliser. C'est comment mobiliser tout le monde en même temps sur ces sujets. Parce que on comprend bien que les Français, par exemple, n'ont pas envie de changer leur mode de vie, leur mode de consommation, si les Chinois, si les Américains ne commencent pas à changer les leurs. Donc à partir de quand on arrive à impulser quelque chose de global, j'ai envie de dire.
Michel Serres.
Ne me posez pas de questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire, les questions sont si globales là, comment voulez-vous que je les tienne dans les bras, voyez.
Mais ça veut dire qu'il faut une gouvernance mondiale sur ces sujets-là.
C'est-à-dire, c'est pour ça qu'à force de réfléchir à cette question, je me suis tourné vers le droit. Le droit est quand même global, il peut être international, il peut en effet nous aider à avoir des armes contre ce problème. C'est pour ça que je...
Alors, qu'on en revient à la règle du
droit. Le reste, je suis trop jeune et trop ignorant pour comprendre ça.
Et on pourrait imaginer un jour une justice internationale écologique, comme oui, vous l'aviez proposé.
Je me rappelle un jour, à la télévision, j'avais été invité avec Boutros-Ghali, qui était le patron de l'ONU. Et en sortant, je lui ai dit, mais comment ne parlez-vous pas des problèmes de l'eau, des problèmes à l'ONU? Ah, il me dit, moi je voudrais bien qu'on en parle. Mais chaque fois que j'interroge un fonctionnaire, il répond, je ne suis pas là pour parler de l'eau, je suis là pour défendre les intérêts de mon gouvernement.
De mon pays, de mon État.
Mon État. Alors du coup, c'est plus possible. Alors du coup, j'avais eu l'idée de créer une institution internationale que j'avais appelée les Waffles, vous voyez,
comme les en bon anglais, en bon français.
C'est du belge,
oui,
mon cher.
C'est du belge.
C'est les gaufres.
Oui, c'est
oui,
ça.
Mais en l'occurrence, c'est surtout un acronyme.
Oui, c'est ça. C'est water, l'eau, l'air, la terre, le feu, le vivant. L'eau, l'air, la terre, le feu, le vivant. Et alors, en effet, si on avait une institution internationale de ce genre, elle aurait un droit nouveau et global. Voilà.
Vous insistez beaucoup dans vos livres sur la distinction entre les sciences exactes et les sciences humaines.
Exact.
Et vous dites qu'il y a une dichotomie entre les deux, qu'au fond les sciences humaines font le débat,
oui,
alors que les sciences exactes font la réalité,
oui,
et que du fait qu'on ne les marie pas, on
exact
ne fait pas progresser les sujets.
Exact.
Est-ce que vous pouvez développer?
Oui.
Michel Serres.
C'est-à-dire, j'ai écrit autrefois un livre qui s'appelle « Le tiers instruit » pour faire l'éloge d'une nouvelle culture qui associerait les sciences dures et les sciences humaines. Car il est vrai, comme vous le dites, que si on regarde tous les progrès dont je parle, la paix, la condition d'espérance de vie, les problèmes de santé, etc., on s'aperçoit que c'est les sciences dures qui ont permis ce genre de choses, qui ont permis, c'est la biochimie, c'est les mathématiques ou l'informatique dans le cas des réseaux sociaux, etc. Mais tous ceux qui ont la parole aujourd'hui sont presque tous formés aux sciences humaines.
Oui.
Il y a un décalage qui ressemble un peu au décalage dont j'ai parlé tout à l'heure entre les institutions d'aujourd'hui et la réalité sociale. Oui, la réalité sociale a été un peu sculptée par les sciences.
Alors, quelles caractéristiques aurait ce nouveau personnage qui comprendrait vraiment la réalité du monde?
Mais c'est quelqu'un qui sortirait de l'ENA en sachant par cœur la mécanique quantique.
Enfin, ou alors c'est quelqu'un qui sortirait de la navale, qui aurait fait des études de mathématiques et qui serait devenu philosophe. Et il ressemblerait à Michel Serres, pourquoi pas?
Il ne faut jamais se donner un exemple, écoutez.
Non, mais moi je l'ai fait.
Je suis trop jeune et trop ignorant pour donner un exemple.
Mais en l'occurrence, c'est vrai que la question de la transmission de l'enseignement, c'est l'un des fils rouges de votre vie. Vous avez enseigné en France, vous avez enseigné aux États-Unis, vous le disiez, vous avez enseigné au Japon et ailleurs. Vous y avez réfléchi dans ce livre Le tiers instruit, vous avez réfléchi au sujet plus récemment dans La petite poussette. Et à cette question, que transmettre? Quelle est l'une des grandes questions qui est posée aujourd'hui à notre société, alors qu'aujourd'hui l'accès au savoir est complètement ouvert? Il est disponible sur Internet, facile, accessible à tous.
Alors, j'ai deux réponses aux questions. La question de la transmission, lorsque j'étais jeune et un peu avant, était presque l'exclusivité ou le monopole de l'école. De l'école primaire, du lycée, de la faculté, etc. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que l'information dont vous parlez, vous le savoir, est donnée à la fois par la radio, par la télé, par les réseaux sociaux, par Wikipédia, etc. Donc on a complètement transformé notre société en ce que j'appellerais volontiers une société pédagogique. Voyez ? Et par conséquent, le rôle de l'école a diminué tout d'un coup brutalement jusqu'à, je sais pas, 10-15% de la... C'est pas elle qui a le monopole de la transmission. C'est l'ensemble de ce que je viens de décrire.
Oui.
Voyez. Et par conséquent, vous pouvez toujours réformer l'école. Vous ne changerez rien à cette affaire.
Avis au ministre de l'Éducation nationale qui se casse les dents régulièrement sur le sujet.
Je suis trop jeune et trop ignorant pour être nommé ministre.
En revanche, c'est vrai que la question de la transmission, vous en êtes responsable, la transmission de la langue française à l'Académie. À l'Académie, vous faites le dictionnaire. Je crois que vous réunissez tous les jeudis pour y travailler. Et vous travaillez maintenant donc à la prochaine édition. Qu'est-ce qui vous frappe le plus maintenant que vous travaillez sur le dictionnaire par rapport à ce que faisaient ceux qui vous ont précédé ?
C'est très simple. Depuis Richelieu, nous disposons de tous les dictionnaires que l'Académie a publiés depuis lors. C'est-à-dire, ça fait trois siècles et demi. Et si nous comparons un dictionnaire avec l'autre, le suivant. Le changement de langue est entre 3 et 5 000 mots. La fenêtre, 4 000 mots en général. Et ce pourcentage est constant à travers toute l'histoire. Et tout d'un coup, entre la dernière édition du dictionnaire et celle que nous préparons, il y a une différence de 35 000 mots.
35 000 mots.
C'est incroyable. C'est-à-dire, les langues, d'ailleurs, c'est pas seulement le français, sont en train de muter un peu comme la société dont j'ai parlé tout à l'heure.
Oui,
c'est
parce
un reflet de la société.
Il y a des mots qui ont disparu.
Mais oui.
Les mots de votre enfance, les mots de votre jeunesse, les mots de métier, par exemple.
C'est en effet des métiers qu'il s'agit. Vous avez raison de le dire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai entendu un architecte dire récemment, il y avait 93 mots pour décrire la façade de Notre-Dame et ils ont tous disparu. Mmh. Et je dirais la même chose des métiers paysans, des métiers aussi bien, je sais pas moi, même de tous les métiers, allons dire.
Des lavandières, voilà. Par exemple.
Oui, tout à fait. Et par conséquent, là, on voit très bien que ce sont les métiers qui ont changé cette affaire-là.
Juste pour reparler de l'école et Ali Badou évoquait à l'instant l'action de l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que pour vous, lire, écrire, compter, respecter autrui, comme il le dit lui, c'est la base de tout enseignement? Et est-ce que vous constatez pour votre part que, entre guillemets, c'était mieux avant, qu'il y avait plus de respect pour les maîtres, que l'on respectait plus l'orthographe? Est-ce que vous êtes dans cet esprit-là?
Michel Serres.
je m'en fous.
Vraiment.
C'est pas la question. C'est pas la question. Mais non, c'est pas la question. Alors, c'est les ronchons qui disent ça.
C'est les grands papas ronchons. Vous êtes resté espiègle.
Il y a du respect où il y en a pas.
Et vous aimez le chahut, oui.
Mais de toute façon, il a changé de style, il a changé de profil, il a changé de couleur. Vous voyez, c'est tout à fait nouveau.
Mais votre discours est iconoclaste, parce que cette perte du respect, on l'entend beaucoup, en tout cas on entend beaucoup, notamment d'enseignants, sans plaindre.
Enfin, pas que les enseignants, à l'académie, vous êtes entouré de grands papas ronchons, ils sont nombreux.
Bon, mais vous savez, derrière moi je faisais une conférence, et j'ai dit, tiens, il y a des bobards sur gazouillis. Personne n'a compris. Mais Bobard sur gazouillis, personne ne comprend.
Attendez, gazouillis, c'est Twitter.
Excusez-moi, je vais traduire en français. Ça veut dire fake news sur Twitter. Ouais. Alors, dès que ça arrive en français, tout le monde comprend. Vous rendez compte de la catastrophe? C'est-à-dire que si je parle en français, personne ne comprend. Si je parle en anglais, tout le monde comprend. Faites attention.
Avec Barbara Cassin, en l'occurrence, vous avez trouvé une alliée à l'Académie française pour mener la guerre contre le globish et contre cet anglais facile qui est devenu une langue d'usage.
Oui, c'est une catastrophe pour l'anglais aussi bien. Hein. Oui. L'anglais est en train de...
Est-ce que vous pensez être en mesure de lutter contre ça et de gagner cette bataille ou pas du tout?
Nous l'avons déjà perdue.
Oui.
Nous l'avons déjà perdu parce que vraiment, c'est une telle... Vous savez, la télé, la radio elle-même, elle a des émissions qui sont en anglais. The Voice, par exemple,
oui.
Pour prendre un exemple. Mais pourquoi The Voice? Vous voyez ce que je veux dire?
Au lieu de dire La Voix?
Vous croyez?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Il nous faudrait un traducteur.
C'est une question difficile.
En revanche, il y a des combats que vous menez. Et celui-là, vous l'avez gagné. Et c'est un combat qui n'était pas facile, en l'occurrence, à mener dans une institution... Bon, une vieille institution comme l'Académie française, c'est la guerre autour de la féminisation des noms de fonctions, notamment.
Oui.
Vous avez été féministe avant-gardiste en la matière.
Oui, je crois. Avant-gardiste, j'écoutais les femmes.
En tout cas, vous étiez à la pointe avancée.
Oui.
Non, vous n'écoutiez pas les femmes, Michel Serres, parce qu'en l'occurrence, madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, comme elle voulait toujours qu'on l'appelle, comment vous l'appeliez?
Madame la.
Et voilà, vous êtes déjà un rebelle.
Oui, je désobéissais tout simplement. Mais je voudrais dire deux choses à ce sujet. Le problème est plus facile qu'on ne le croit. Pourquoi? Parce qu'il y a en français des mots, c'est un mot un peu barbare, des mots épicènes.
Oui.
Le mot épicène veut dire un mot qui a les deux sexes ou les deux genres. Par exemple, je vous demande des nouvelles de votre enfant. N'est-ce pas? À ce moment-là, vous me répondez...
Il, voilà.
Il.
Et là, il y en a beaucoup plus qu'on croit en français. Mm-hmm. Et par conséquent, le mot secrétaire est épicène, évidemment. Mm-hmm. C'est-à-dire, on dit ma secrétaire ou mon secrétaire. Bon. Et par conséquent, c'est ridicule de dire le secrétaire pour une femme. Oui, c'est la secrétaire.
Mais profilée. Vous avez malgré tout dû batailler pour mettre en pièce l'idée selon laquelle en français, le masculin l'emporterait toujours sur le féminin.
Ça dépend. C'est intéressant comme affaire. C'est-à-dire, si vous regardez, par exemple, on dit, est-ce qu'il faut dire auteur ou autrice ?
Oui.
Alors, l'usage, par exemple, a dit facteur, factrice, bien sûr. Mais est-ce que vous avez remarqué que tous les mots « honneur » en français sont ou masculins ou féminins ? Il y a l'horreur et l'honneur, vous voyez, l'odeur, etc. Donc, si vous voulez, dès que vous avez un mot « honneur » pour caractériser une femme ou un homme, gardez-le. Il peut être indifféremment masculin ou féminin. On peut dire une auteure sans difficulté.
Françoise ?
Une partie des féministes se battent pour l'écriture inclusive. Qu'est-ce que vous pensez de leur combat ?
Michel Serres ?
Il n'y a pas de combat, c'est tellement compliqué que personne ne l'adoptera. C'est vraiment une complication terrible. Non, je ne crois pas que ça soit vraiment un combat à mener. C'est déjà fait. Oui.
Il y a un autre combat, pour le coup, que vous n'avez pas abandonné, c'est celui contre les marques, contre l'invasion dans la langue des marques que nous employons. Alors, évidemment, il y a les exemples canoniques, Frigidaire, Ketchup, mais ça va beaucoup plus loin.
Oui, vous êtes très au courant, parce que l'intervention que j'ai faite à l'Académie date à peine de 2 semaines.
Oui, mais je l'ai lue, elle est en ligne.
Oui. C'est-à-dire, je disais, alerte, les noms propres sont en train de remplacer les noms communs.
Ouais.
Or, les noms communs, c'est quand même un trésor de la langue. Et dès le moment où vous remplacez, sauce tomate par ketchup, si vous voulez, ou vous remplacez mouchoir par Kleenex, etc., vous perdez le nom correspondant, vous voyez. Et cette perte-là serait vraiment... Et là, c'est, comme vous le disiez, madame, c'est un phénomène du capitalisme ou de la publicité.
Mais c'est quand même un combat perdu d'avance, non ? Je veux dire, on continue à les utiliser, ces mots-là. Enfin,
beaucoup de ces combats sont perdus d'avance.
Comme les... Oui, d'accord.
Parce la que marque, comme c'est les le noms... vol, comme vous le disiez. La marque, c'est le vol.
La marque, c'est le vol.
C'est même le viol de la langue.
Oui, la marque, c'est tout simple. Quand j'étais jeune et que je rentrais au lycée, j'étais pensionnaire, bien entendu, et ma mère cousait sur ma chemise et mes caleçons, mes initiales en lettres rouges, n'est-ce pas ?
Oui.
Ça montrait que c'était à moi. Mais voyons, quand vous achetez quoi que ce soit maintenant, la marque reste sur l'objet. Donc, il la garde, voyez ? Et cette marque-là a une vieille origine, mon cher.
Oui, vous l'avez découverte dans un grimoire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, les putains d'Alexandrie avaient coutume de sculpter dans la semelle de leurs souliers leur initiale en négatif. Et donc, quand ils marchaient sur la plage, on savait à la fois où on allait et qui on pouvait trouver. Vous voyez ? Et
elle marquait.
C'est marque le pas. Elle marque le pas. Et c'est des traces de pas. Et par conséquent, les publicitaires sont des fils de ces putains-là.
Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un paradoxe ? Parce que vous saluez aussi les inventeurs. Vous en avez rencontré peu, dites-vous, mais cela a toujours été très important pour vous. Et derrière les marques, il y a aussi des inventions. Vous citiez tout à l'heure Twitter. On le nomme
le gazouillis, quoi.
Mais ce n'est pas gazouillis, c'est Twitter, c'est une invention américaine. Est-ce que par moment on n'est pas obligé finalement de saluer celui qui a inventé quelque chose à travers son nom et sa marque ?
Ce n'est pas faux. Et il est vrai que lorsqu'un objet est nouveau, il porte plus ou moins la marque de celui qui l'a inventé, donc de sa langue. Alors c'est vrai, mais c'est pas ça. C'est que depuis toujours, on a eu besoin d'une langue internationale. Je ne pouvais pas parler à la fois japonais, coréen, espagnol et portugais. Bon, bien sûr. Par conséquent, de se référer à une langue, c'est très bon. Et il y a toujours eu une langue dominante. C'était le grec en Méditerranée, ça a été le latin, puis le français. Maintenant, c'est l'anglais. Demain, ce sera peut-être l'ourdou ou le cantonais, n'est-ce pas ? On n'en sait rien. Ouais. Par conséquent, cette langue est importante. En effet, il faut la garder. Mais ce n'est pas une langue dominante. Il y a une langue d'échange, et ce n'est pas une langue dominante. Si c'est une langue dominante, alors c'est la catastrophe.
C'est une langue régionale ? C'est une espèce menacée, la langue française ?
Oui.
Oui.
Ah oui. Enfin bon, elle se défend mieux que d'autres langues parce que elle est un peu internationale. Il y a beaucoup d'Africains qui parlent français. Hawaï parle français, le Québec parle français, la Belgique, la Suisse, etc.
On dit toujours que la francophonie se porte très bien. Donc
oui, je crois. Je crois.
Et les Français aussi parfois parlent français, Michel Serres. Ça arrive de temps en temps, il paraît.
Ça arrive.
Puisque vous parliez de la nouveauté et des inventions, je rappelle donc que vous avez enseigné à Stanford, que vous étiez au cœur de la Silicon Valley pendant près de 40 ans. Vous avez écrit des livres, vous avez travaillé notamment sur un philosophe allemand du XVIIe siècle, Leibniz, qui est une référence aujourd'hui, ce livre, pour beaucoup de ceux qui veulent penser les réseaux sociaux. Vous êtes né dans un monde où n'existait que l'écrit, mais vous n'avez jamais eu peur de l'écran.
Non, parce que le bénéfice que nous avons de cette révolution considérable, qui est aussi importante que la paix, vous voyez, je dis souvent que si nous sommes en paix, c'est grâce à l'Europe, et que je serais très très malheureux si on quittait l'Europe. Vous savez, chaque fois que je passe la frontière allemande, je pleure, bien sûr. Oui. Et un jour, à l'Académie, on a reçu le président de la République allemande, et puis on a été présenté un après l'autre. Et puis, prédécesseur disait, je m'appelle un tel, j'ai fait tel et tel livre. Moi, j'ai pas fait du tout pareil. J'ai dit, monsieur le président, bonjour. Mon grand-père a fait la guerre de 70. Mon père a fait la guerre de 14.
Verdun.
Mon oncle a fait la guerre de 39. Quant à moi, mes meilleurs amis sont à Berlin, Stuttgart et Munich. Et là, j'ai vu des larmes dans la chose. Et parce que je n'ai pas pu terminer cette phrase sans une émotion considérable, forcément. Et s'il n'y avait pas eu le falbala de tout le bazar, on s'embrassait à tous les coups. Vous voyez ? Et ça, ça m'a beaucoup ému, et je voudrais que les gens aient ça dans la tête, parce que 70 ans de paix, c'est l'Europe qui l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on ne peut pas éviter un trésor pareil, vous voyez ? Et d'ailleurs, j'ai mal répondu, vous m'aviez posé une autre
question. Oui, mais c'est très bien, c'était malgré tout une très bonne réponse. J'allais vous parler du virtuel, du numérique, la société des écrans. Grand-papa Ronchon accuse souvent la petite poussette d'être avalée par le virtuel.
Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, un certain Cervantes, vous avez entendu parler sans doute, a écrit un livre majeur, extraordinaire, qui s'appelle Don Quichotte. Bon, qui c'est Don Quichotte ?
De la Manche.
C'est Don Quichotte, c'est un homme ivre de livres, puisque devant lui, il ne voit rien de réel, il ne voit que des représentations des romans de chevalerie. Mm-hmm. Par conséquent, il est ivre de livres. Et voyons, mais c'est pas pareil ? C'est exactement la même chose que de dire « tu es ivre ». Quand j'étais petit, ma grand-mère levait les bras au ciel en disant « Ce Michel ne verra jamais le réel, il est tout le temps dans les bouquins. » Voilà, c'est ça. Mais c'est vieux.
Madame Bovary, au fond, c'est une adepte du virtuel.
Oui, mais elle a fait l'amour beaucoup plus souvent virtuellement que réellement.
Comme beaucoup, beaucoup de nos contemporains.
Comme nous tous, oui.
Quand vous parlez justement à la petite poussette, c'est assez frappant quand vous demandez si nous sommes devenus des animaux virtuels. Vous dites « maintenant ». Oui. Maintenant ? Pourquoi maintenant ?
Bien, c'est-à-dire que le mot « maintenant », on ne s'aperçoit pas que ça a une étymologie délicieuse et profonde. Ça veut dire « tenant, maintenant, tenant en main ».« Tenant en main ». Et par conséquent, quand vous avez le portable à la main, vous avez à la fois toutes les informations possibles, vous avez tous les gens accessibles possibles, et vous voyez, et par conséquent, vous tenez en main…
Le monde.
Presque le monde, vous voyez. Je ne connais pas d'empereur dans l'histoire qui aurait pu dire la même chose. Oui.
Pourquoi ça n'apporte pas plus de bonheur, le fait de tenir le monde dans sa main ?
Madame, excusez-moi, vous savez vraiment ce que c'est que le bonheur ?
En tout cas, c'est pas ce à quoi on assiste aujourd'hui, qui est quand même l'immédiateté, la violence, quand même sur une montée de la violence, en tout cas des agressions sur les réseaux sociaux. Une perte de recul.
Vous savez, l'agression sur les réseaux sociaux, c'est vrai, et on a parlé tout à l'heure, mais l'agression dans les livres, écoutez-moi, on a quand même lu Mein Kampf, hein, et il y avait pas mal de livres de ce genre, vous voyez ce que je veux dire. Par conséquent, tout canal de communication est possiblement chargé de crimes.
Quand vous avez assisté à l'avènement d'Internet, exact. Est-ce que vous imaginiez ce qui se passe aujourd'hui ?
Non. C'est-à-dire, on était un peu dans l'idéologie des Lumières, c'est-à-dire on pensait que l'avenir serait parfaitement lumineux, qu'on aurait une nouvelle démocratie, etc. Et cet espoir lumineux, c'est arrêté très vite.
On a quand même le sentiment que finalement, cette ère numérique dans laquelle on a basculé nous a rendu encore un peu plus individualistes. C'est vrai ou c'est faux ?
Vous savez, l'individu a été inventé, je crois, par Saint Paul. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait contemporain, vous voyez. C'est le premier qui a dit, il n'y a plus ni juive, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, mais toi. Et donc là, on voit arriver l'individu. Et l'individu, peu à peu, a eu du mal à conquérir sa place. C'est-à-dire, il a fallu Rousseau, il a fallu Descartes, il a fallu beaucoup de gens pour que l'individu, peu à peu... Et tout d'un coup, il est né. Alors évidemment, que ce soit les nouvelles technologies qui aient aidé à ça, mais le problème et la résolution du problème est historique. C'est-à-dire
ça... pas que les gens sont un peu trop auto-centrés, s'intéressent surtout à eux et ne savent plus vivre finalement avec les autres. Non, c'est pas choquant.
Vous savez, quand on a dit tout à l'heure que les jeunes étaient plutôt avec une conscience écologique énorme par rapport à nous, c'est plutôt le contraire, voyez. Alors bon...
Dans Morale d'Espiègle, vous évoquez un souvenir de jeunesse dans une foire où un pauvre homme se faisait bombarder par des tomates trop mûres. Et tout le monde était très content. Et vous aviez été choqué par cette scène. Et vous dites aujourd'hui, il n'y a plus ces scènes de lynchage et vous vous en réjouissez. Mais lorsqu'on voit, je reviens au virtuel, sur Internet, des scènes de décapitation, le terroriste de Christchurch qui filme son agression, enfin, son massacre dans une mosquée vu par des milliers de personnes. Est-ce que ce n'est pas aussi un goût du lynchage qui n'a pas disparu ?
Entièrement.
Michel Serres.
Je pense que vous avez pris le bus pour venir comme moi. Et sur le bus à Paris, il y a aujourd'hui des affiches qui est une publicité pour un film américain où on voit le héros qui est là, etc., avec un énorme revolver. Mais voyons, c'est un tueur. Et donc, la publicité, c'est pour le meurtre. Mais qui se souvient de ça? Qui le pense vraiment? Qui pense vraiment qu'en écoutant tous les jours les nouvelles à la radio, vous entendez parler de meurtres, de cadavres, de morts, d'attentats, etc., rien que de violences dont se parlait madame tout à l'heure?
Oui.
Mais personne...
Donc ça évite le passage à l'acte, c'est ce que vous dites, Michel Serres? C'est un exutoire de voir toute cette violence sur écran qui permet finalement de ne pas passer à l'acte? Est-ce que c'est votre...
Non, ça c'est la théorie d'Aristote de la catharsis, oui. Vous avez raison que ça peut jouer, mais je trouve
qu'est-ce
que
vous rend optimiste, alors ?
Je trouve que l'homme est vraiment extraordinairement résistant de résister à cette publicité permanente qui ne vient pas des réseaux sociaux, mais qui vient de tous les réseaux aujourd'hui, qui est celui de la mort, du cadavre et de la violence. Et nous sommes vraiment très, très moraux, que je sache, pour résister à cette vague-là qui est gigantesque depuis des dizaines d'années, voyons.
D'où vous est venue l'idée d'être à la fois français, fier de l'endroit où vous êtes né, de votre ville d'Agen, de son club de rugby notamment, et en même temps de vous être toujours senti citoyen du monde?
Oui, vous savez, j'ai eu le projet étant jeune, puisque j'étais enseignant, de ne pas enseigner seulement chez moi, mais d'enseigner un peu dans tous les pays du monde pour voir où en était le problème de la transmission dont vous parlez. Et je me suis aperçu que c'était la catastrophe partout. C'est-à-dire que partout, la crise de l'enseignement est la même, et c'est pour ça que j'ai donné la solution, la description tout à l'heure.
Oui.
Vous voyez ? Et par conséquent, mais chaque fois que je passais quelque part, tout le monde me reconnaissait comme français, bien entendu, et j'étais un peu... comment dire, un ambassadeur, enfin, autant que vous voulez. Et même, il y avait des gens assez forts dans mon auditoire pour dire « mais vous êtes du Sud ». Parce que quand même, on garde un accent, vous voyez. L'accent étant, si vous voulez, la trace d'une langue dans l'autre.
On l'entend, oui.
Oui, c'est-à-dire, on
entend, signature.
Quand je parle anglais, on entend que je suis français, mais les oreilles un peu fines entendent que je suis gascon.
Et malgré tout, vous vous êtes senti partout chez vous?
Oui et non.
Oui et non. Et non.
Oui. C'est-à-dire que en Amérique, par exemple, les gens ne savent pas à quel point l'Amérique est une société puritaine. Puritaine. Et on ne s'aperçoit pas de ça parce que nous sommes devenus puritains à l'image des États-Unis. Et c'est une vraie catastrophe. Vous voyez. Par conséquent, oui, on est chez nous, mais... On voit très vite les différences, vous voyez. On voit très vite les différences, ou bonnes ou mauvaises, et c'est quelquefois bonnes. C'est-à-dire, il est vrai que depuis que je suis allé en Allemagne, je dors dans une couette, c'est bien meilleur que les draps, vous voyez, etc. Bon, on prend le bénéfice, mais on voit vraiment les profils négatifs.
Ouais. Vous êtes plutôt sédentaire ou nomade, Michel Serres? C'est l'une des grandes questions de notre époque.
C'est une, la réponse est nouvelle, précisément. Autrefois, il y avait une différence entre le sédentaire et le nomade, c'est-à-dire, en gros, l'agriculteur et l'éleveur, hein, n'est-ce pas ? Bon, et j'ai l'impression, si vous voulez, que la distinction est en train de fondre l'une dans l'autre. Voyez, vous m'avez dit que j'étais citoyen du monde, c'est vrai, mais vous m'avez dit aussi que j'étais gascon, et c'est vrai.
Oui.
Et par conséquent, il y a une fusion là qui date d'assez longtemps. Je vais vous dire. Vous rappelez de Gagarine, le premier
Yuri Gagarine, le premier homme à avoir voyagé dans l'espace.
Et j'avais été invité à la télévision ou la radio, je ne sais plus, pour parler de ça. Et on m'avait dit quel est l'exploit de parler de cet exploit. Et j'ai dit l'exploit, c'est qu'il n'est pas parti. Alors, tout le monde est stupéfait. Non, il n'est pas parti, puisque pour la première fois, quelqu'un qui part est toujours avec nous par radio. Il n'a jamais, jamais perdu le contact avec la Terre. Et vous rendez compte, mais un marin, il y a à peine 100 ans, il partait, et sa femme l'attendait, il pouvait revenir le soir, 8 jours après, 3 ans après, ou jamais.
Oui.
Elle ne savait pas, voyez. Donc, il partait. Et donc, il était nomade. Et maintenant, on est à la fois nomade et sédentaire.
Même quand on est en pleine conquête spatiale, même quand on essaye de découvrir d'autres planètes, au fond, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne quitte jamais la nôtre.
Vous savez, la conquête spatiale n'est pas une conquête humaine. Elle est une conquête technologique. Je ne pense pas que jamais on puisse mettre les pieds sur Mars. Hein, je ne crois pas.
Dans la plupart de vos ouvrages, vous insistez sur la perte de la société agraire.
Oui.
Est-ce que c'est une vraie préoccupation pour vous? Quand vous décrivez Petite Poucette, c'est une personne des villes qui a un rapport à la nature qui n'est pas du tout celui que vous aviez. Est-ce que pour vous, c'est une préoccupation?
Oui, ça a été Michel presque Serre. Une des premières préoccupations que j'ai eues dans ma vie, parce que étant jeune, je participais beaucoup au combat des syndicats paysans. Vous voyez, et vraiment là, j'ai vu muter l'agriculture de façon telle que je ne pense pas qu'il y ait de métier qui ait muté à ce point. Vous voyez, et la preuve que je l'ai donnée tout à l'heure, nous étions 70% de paysans, 1900, vous voyez, ou dans les pays analogues aux nôtres, mais aujourd'hui 2-3%. C'est une sorte de baisse terrible. Et qu'allons-nous faire, madame, s'ils la disparaissent? Quand même, c'est les pères nourriciers de l'humanité. Les pères nourriciers de l'humanité. C'est des gens qu'il faut respecter et conserver comme un trésor national, un trésor dont on parlait tout à l'heure. Oui.
Jeff, et ce sera la dernière question,
vous
l'émission touche
à
sa fin.
Les dizaines de mots qui existent pour décrire la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris, est-ce que l'émotion et l'engouement autour de l'incendie, puis du projet de reconstruction de cette cathédrale, vous ont surpris? Qu'est-ce que ça dit du rapport au passé, du rapport à l'identité française pour le coup?
Nous ne savions pas à quel point nous tenions à cet édifice. Nous ne savions pas à quel point, qui que nous soyons catholiques, protestants, musulmans, etc. Vraiment, on y tenait. Et c'est vrai que quand la flèche est tombée, j'ai pleuré. Mais autour de moi, tout le monde pleurait. Voyez, c'est-à-dire, et tout le monde, ça veut dire des gens qui ne pratiquent aucune religion, les athées. Voyez. Et donc, on était vraiment attachés à ça. Pourquoi? Parce que, écoutez, toutes nos institutions et ce que nous connaissons sont, dans le bon cas, séculaire, et là, millénaire. Moi, je me souviens, un jour, être allé à un concert d'orgue à Notre-Dame, et celui qui l'organisait a annoncé qu'on fêtait le 1000e anniversaire de la chorale. Mais de qui peut-on imaginer qu'on a fait le 1000e anniversaire? Et donc, l'enracinement dans le passé, ou dans ce qui nous fait notre identité, est énorme. Énorme. Et Notre-Dame en est vraiment le meilleur des exemples.
Merci infiniment, Michel Serre, d'avoir infiniment été notre invité. C'est la fin. C'est vrai. Mais vous êtes immortel. Donc, on a le temps.
C'est une image.
C'était un bonheur de passer cette heure avec vous.
Merci.
Au fond, vous n'êtes pas du tout grand-papa Ronchon. La petite poussette, c'est vous.
Je suis tellement jeune qu'il faudra attendre quelques années pour que je devienne la petite poussette.
Morales espiègles, mais ouais. Aussi C'était mieux avant, où Le Contrat Naturel sont publiés aux éditions du Pommier. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe de Questions Politiques. La politique reprendra ses droits ce soir. Ne manquez pas, dès 19h sur France Inter, la grande soirée électorale présentée par Claire Servavajan avec ses nombreux invités. Quant à nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain.